enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Amen.
Amen.
Va partager la parole.
Les cadeaux sang et les charbons.
Seigneur, merci pour ta parole.
Parce
qu'elle est une lampe à nos pieds.
Elle
est une lumière sur notre sentier.
Nous
voulons l'écouter avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère. Père, je te demande de oindre par ton esprit cette parole. Que ce soit ce que toi tu veux dire. Non pas ce que moi je veux dire, mais ta parole sainte, puissante et efficace, qui est une aide, un soutien pour ceux qui l'écoutent et qui la reçoivent. Au nom de Jésus.
Amen.
On va parler ce matin. Toujours ce sujet que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Que Dieu est un Dieu de signes, de miracles et de prodiges.
Amen.
Dieu est un Dieu de signes, de miracles et de prodiges. Et puisqu'il est un Dieu de signes, de miracles et de prodiges, nous devons nous attendre
à
avoir des signes, des miracles et des prodiges. Et si nous n'en voyons pas, ce n'est pas Dieu qui a un problème, parce qu'il est un Dieu de signes, de miracles et de prodiges. Ce n'est pas le diable qui est devenu tout à coup très fort. C'est nous qui ne faisons pas ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire. Et en étudiant la parole de Dieu, selon les cas, parce que les cas dans lesquels nous voyons des miracles ou des signes ou des prodiges, ce sont des cas qui sont différents. Une fois les choses se passent de cette manière, une autre fois les choses se passent de cette manière. Et sachez qu'il y a eu à cette époque des multitudes de situations dans lesquelles il n'y a eu aucun miracle, aucun signe, ni aucun prodige.
Amen.
Parce que quand on lit l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui on va aller dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament depuis Adam et Ève jusqu'à
Malachie
couvre une période de 4000 ans, à peu près, plus ou moins 4000 ans. La période depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui couvre une période d'environ 2000 ans. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit également dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament depuis la naissance de Jésus jusqu'au moment où on trouve l'Apocalypse, ça couvre une période d'à peu près 85-33, une cinquantaine d'années. Vous comprenez? Parce que quand Jésus est né, il n'a pas commencé à exercer son ministère le jour de sa naissance, mais il a commencé à l'âge de 30 ans.
Donc,
depuis le moment où Jésus avait 30 ans, jusqu'au moment de l'Apocalypse où l'apôtre Jean donc, l'a écrit à l'âge de 85 ans, la période du début des évangiles jusqu'à l'Apocalypse couvre une cinquantaine d'années. Et on voit qu'au cours du temps, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des guérisons. Mais vous devez savoir une chose, c'est que ce soit à l'époque de Jésus, tout le monde n'était pas guéri.
Amen.
Il y avait une multitude de personnes qui vivaient en Israël. Certains ont été guéris, ont reçu un miracle, d'autres ne l'ont pas été. On sait que tous ceux qui venaient à Jésus avec un cœur sincère recevaient de lui.
Mais
rappelez-vous notamment cette histoire, l'histoire de la femme qui avait cette perte de sang. Le jour où ce miracle s'est produit, quand on lit la parole de Dieu dans notamment l'évangile de Marc, on voit qu'il y avait une foule nombreuse qui était Jésus se déplaçait et la foule se déplaçait avec lui. Et il faut bien être sûr d'une chose, c'est que dans cette foule, il y avait aussi des gens qui étaient malades. C'est évident. C'est évident. Regardez, ici nous sommes à peu près 700, 800 personnes entre ceux qui sont ici, ceux qui sont là, ceux qui sont derrière. Et si je disais, si je posais la question, ceux qui sont malades, ne le faites pas, c'est juste un exemple, bien sûr. Ceux qui sont malades, levez la main. Il y aurait toujours une partie de personnes qui lèveraient la main. Et ça ne serait pas ni 10 ni 15. Mais en règle générale, il y en a au moins 50 ou 100. C'est inévitable. N'est-ce pas? Amen.
Amen.
Amen. Alors, du temps de Jésus, le temps où cette femme avait la perte de sang, elle vient à Jésus. Dans la foule, il y avait beaucoup de monde. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de monde. Jésus marchait. Et, tenez, on va lire ensemble parce que je sens vraiment que c'est important. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, on va lire le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, là il s'agit de Jaïrus, le responsable de la synagogue, qui avait demandé à Jésus de venir chez lui parce que sa petite fille était malade à l'extrémité. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc vous imaginez Jésus qui marche et une grande foule qui le suit et qui le presse. Si vous préférez, c'était vraiment une bousculade. Vous savez, dans la foule, il faut vraiment être fort pour tenir dans une foule. Parce que tu peux te faire facilement marcher dessus et écraser. Et donc cette femme vient, elle touche Jésus et elle est guérie. Et Jésus va sentir qu'il y a une force qui sort de lui. Et il va poser la question suivante. À la fin du verset 30, il va dire, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples, ils vont lui dire, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Les disciples, ils ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agit. C'est comme si l'apôtre Pierre disait, par exemple, à Jésus, Jésus, tu as vraiment été trop longtemps au soleil, là. Tu demandes, qui t'a touché? Tu vois pas qu'il y a une foule énorme là? Comprenez pas. Mais il y a eu une façon spéciale de toucher Jésus qui a fait que le miracle a pu se produire. Il y a dans un miracle un détonateur. Ou si vous préférez, un interrupteur. Un interrupteur. La chose qui va faire que le miracle va se produire. Du temps de Jésus, dans cet exemple-là, il y avait même sûrement des gens qui étaient malades et qui marchaient à côté de Jésus, qui ont touché Jésus. Mais rien ne s'est passé. Mais pour une femme, il s'est passé quelque chose de spécial. Parce qu'elle a fait la bonne démarche.
Amen.
Avec son cœur, elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je sais que je serai guérie. C'était le point de contact de sa foi. Il y a quelque temps, nous avons parlé de Naaman. C'était un homme qui ne comprenait rien, qui ne connaissait rien, ni à Dieu, ni aux choses de Dieu, parce que c'était un étranger. Il ne connaissait pas la loi, il ne connaissait pas les rituels, il ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne connaissait rien. Et il était malade, il avait un énorme problème. Mais à côté de ça, il avait un cœur sincère. Et c'est au travers de la sincérité de son cœur que Dieu a pu agir et amener l'homme là où il allait trouver la guérison. Amen.
Amen.
Vous savez, nous devons apprendre pour pouvoir voir des signes,
des
miracles et des prodiges, à suivre ce que Dieu veut. Amen. Arrête de dire à Dieu, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, ou il faut que tu fasses comme ça. Parce que quand tu dis à Dieu ce qu'il doit faire, d'abord tu prends une place qui n'est pas correcte. Amen. Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Ici, chaque personne, vous avez chez vous des employés. Certains, vous avez des domestiques. D'autres, dans votre travail, vous avez des employés. Mais je sais que tout le monde a un employé d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Amen. Oui? Non? Amen. Amen. Tout le monde. Imagine un instant que ton employé vienne te voir et qu'il te dise, non vraiment, il faut changer les façons de faire dans cette maison, ça ne va pas du tout. Imagine ton employé qui vient te dire, franchement madame, on va parler aux dames, madame, vraiment tu exagères, tu achètes du mauvais riz, tu achètes du mauvais charbon et du haricot. Madame, tu devrais savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Et puis la lessive que tu achètes, vraiment la marque que tu achètes, il ne faut pas acheter ça, il faut acheter autre chose. Et que ton employé te fasse comme ça un long discours. Alors qu'en plus, lui, il y connaît encore moins que toi. Non seulement il y connaît moins que toi, mais il y connaît rien. Comment est-ce que tu vas recevoir les choses? Tu vas lui dire, écoute s'il te plaît, reste à ta place, fais ce que je te demande, rien de plus, rien de moins. Si je me trompe, c'est mon affaire, mais moi je suis la patronne, toi tu es l'employé, alors s'il te plaît, tais-toi. Et là encore je le dis gentiment. Il y en a, ils pourraient même hurler. C'est quoi cet imbécile là? De quoi il se mêle? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Hein, n'est-ce pas? On pourrait dire ça. Hein? Oui, hein? Ah, oui, hein? Merci Rachel. Il y a quelqu'un de vivant ici dans cette salle. Ah oui, hein? On pourrait lui dire des choses. Mais c'est qui celui-là là? Moi je sais. La meilleure qualité de riz qu'il faut acheter. Je sais exactement le nombre de kilos de haricots dont on a besoin. J'allais dire chaque jour, non, chaque semaine quand même, n'exagérons pas. Etc, etc. Pourquoi tu le sais? Parce que tu es la patronne. Tu es habituée. Tu sais le nombre de personnes qui viennent chez toi, qui mangent chez toi. Et si tu dis à ton employé, demain tu me prépares un repas pour 30 personnes, et qu'il te dit, mais madame, t'as un problème là, vous êtes 5 à la maison, pourquoi tu veux un repas pour 30 personnes? Toi tu le sais, parce que t'as des visiteurs qui viennent chez toi. Vous comprenez? Et nous, on a cette tendance souvent. On dit à Dieu ce qu'il faut faire. Et comment il le faut faire. Et quand il faut le faire. Et quand Dieu commence à agir d'une certaine façon, tu dis, ah non Seigneur, pas ça. Hein? Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour expliquer à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit le faire? Vous savez, les miracles, les signes et les prodiges, c'est le cœur de Dieu, c'est son désir, parce qu'il veut se manifester aux hommes, il veut se montrer, il veut se faire connaître aux hommes. Et il y a tellement de besoins, il y a tellement de situations, il y a tellement de problèmes et il y a tellement peu de miracles. C'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Imagine ton employé qui te raconte toute une longue histoire comme ça pendant toute la journée. Au bout d'un moment tu es fatigué et tu vas voir ailleurs ce qui se passe et tu le laisses, n'est-ce pas? Amen.
Amen.
Amen. Amen. Arrêtons de dire à Dieu ce qu'il doit faire
et
comment le faire. Donc Pierre et enfin tous ses disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous savez, nous avons un besoin, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te comprendre. J'ai besoin de comprendre tes pensées, de savoir ce que tu veux faire, comme tu veux le faire, quand tu veux le faire, où tu veux le faire. Parce que quand j'ai compris cela, alors je sais comment moi-même je dois me positionner. Si je sais que quelque chose va tomber d'ici, et c'est une chose dont j'ai besoin, et si je me mets là, et je dis, oh, j'ai tellement besoin de cette chose. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Je fais exactement ce qu'il faut faire. Je lève mes mains pour recevoir. Et ça ne vient pas. Et ça ne descend pas. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es au mauvais endroit. Amen.
Amen.
Alors, il y en a qui pourraient dire, mais quand même, Dieu, il pourrait être un peu plus sympa quand même. Un peu plus gentil. Dieu pourrait faire un effort. Dieu pourrait, bon, au moins se déplacer jusque-là et ça ne change pas grand-chose. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, tu dois prendre cette Bible, tu la jettes à la poubelle et tu en écris une autre. Une autre qui dit, Dieu va se déplacer. Parce que tu ne sais pas comment arriver là où il faut. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il ne change pas, ni dans ses façons de penser, ni dans ses façons de faire. Celui et celles qui ont besoin de changer, ce sont vous et moi. Nous avons besoin de changer. Vous savez, c'est une garantie. C'est une garantie, une certitude de savoir que Dieu ne change pas. Parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est d'ici que ça vient. Alors toi, tu es là. Et tu te dis, bon, allez, Seigneur, fais un effort quand même. Amène ça ici. Et que si Dieu commence à envoyer ici, envoyer là, alors c'est toi qui vas courir. Au fait, c'est où aujourd'hui? Je ne sais même pas comment je vais pouvoir recevoir. Dieu a voulu que les choses soient simples. Dieu a voulu que les choses soient simples. Simplement, tu suis sa parole. Tu te mets là où il faut. Tu lui demandes, Seigneur, montre-moi. Amen.
Amen.
On perd tellement de temps en disant, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Prends le temps de dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Amen.
Amen.
Et c'est quand tu vas voir, vous savez, cette salle est grande. Moi, personnellement, j'ai un problème. Si je dois rentrer ici, je ne sais pas où se trouve l'interrupteur pour allumer les lumières. Parce que je n'ai jamais allumé les lumières ici. Donc, si je rentre ici, spécialement la nuit, et que je dois allumer les lumières, alors je vais avoir un très grand problème. Je vais devoir chercher pendant des heures et des heures, parce que c'est très vaste. Il y a des escaliers, il y a des pièces partout, il y a je ne sais pas où se trouve le compteur électrique.
Amen.
Et je vais perdre beaucoup de temps à chercher. Mais il y a d'autres personnes ici qui sont expertes, elles connaissent. Même les yeux fermés, ils savent se rendre là exactement où se trouve l'interrupteur et ils sauront allumer la lumière.
Amen.
Amen. Pour tel miracle, il y a un interrupteur. Pour tel autre miracle, il y a un autre interrupteur. Et c'est normal. C'est comme dans une maison. Est-ce que tu penses que tu vas allumer la lumière de la cuisine en appuyant sur l'interrupteur de la chambre? Ça n'a aucun sens. Si tu veux allumer la lumière de la cuisine, tu dois appuyer sur l'interrupteur de la cuisine. Si tu veux allumer la lumière de la chambre, alors tu appuies sur l'interrupteur de la chambre. Et les choses sont toujours aussi simples. Le Saint-Esprit est celui qui nous montre où se trouve l'interrupteur pour notre miracle. Ce que tu as eu hier, tu peux l'avoir aujourd'hui, mais pas forcément de la même manière. Quand on étudie la Bible, on voit que Jésus faisait tantôt des miracles d'une manière, tantôt il le faisait d'une autre. On voit par exemple différents cas de guérison pour ce qui concerne les aveugles. Une fois Jésus impose les mains, une fois il fait de la boue. Il y avait différentes façons de faire.
Amen.
Jésus connaissait l'interrupteur. Et toi, comme tu as Jésus qui vit dans ton cœur, tu peux le connaître exactement de la même manière. Vous savez, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Si Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset
12,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
Ngo nukuri nukuri ndabibabwiye unyizera ibikorwa jewe nkora na wazobikora kandi azokora ibiruta ibiruta kuko jewe ngiye kwa data.
Cette parole est la vérité.
Iri jambo nukuri.
Amen.
Amen.
C'est la vérité.
Nukuri.
Simplement, nous avons besoin de voir et de comprendre.
Donc,
on va ce matin étudier un autre miracle. Quelque chose vraiment d'étonnant. C'est dans Deux Rois, au chapitre 4, versets 8 à 17 dans un premier temps, et on lira la suite dans un deuxième temps. Ce que je veux vous dire avant qu'on commence à lire ce texte, c'est que Dieu est l'initiateur des miracles.
Amen.
Amen. Il est l'initiateur des miracles. Il veut faire des miracles bien avant que tu en aies besoin. Il le savait. Il y a pensé et il voulait le faire. Et là, dans ce texte, c'est vraiment étonnant parce qu'on va voir un miracle qui n'a pas été demandé d'une façon, en tout cas, ce n'est pas écrit dans ce texte. Un jour, verset 8, Deux Rois chapitre 4, verset 8, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au chef, pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit.
Kandi hari umugore w'umutunzi kazi aramugobera ngo amuzimane maze uhereye icyo gihe yaciyaho yama ajayo akamuzimana bukenya umugore abarira umugabo wiwe ati mbona uyu muntu kwaruwera kandi n'umuntu w'Imana enda tumubakire akumba hejuru ku nzu tumushire uburiri n'ameza n'intebe n'itara maze yaje kuturamusa azahore araraho umunsi uri izina araza aja muri ako kumba araraho abari umuntu wiwe Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyashonemo amaze kumuhamagara aramwitaba abarira Gehazi atumubarire uti ko wabitwararitse bene uko uti none yo gukorera iki uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami uti canke kumugabisha w'ingabo aramwishura toyaye nzokwigomera ngaha iwacu maze Elisa arabaza ati none bwo gukorera iki Gehazi aramwishura aterega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje aramubwira ati muhamagare amaze kumuhamagara araza hagarara mu itangaza ry'umuryango Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aho uyu geze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu nawe aramwishura ati sigaho nyabona muntu w'Imana reka kumpenda je umusavyi wawe
amen
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 amen.
Quand on étudie les miracles, il faut étudier ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais il faut aussi étudier les personnes qui sont impliquées dans ces choses. Et ça nous révèle certains principes. Et pour ce qui se passe dans cette histoire, on voit une femme. Une femme qui a un bon cœur. Qui a un cœur sincère.
Vous
savez, le miracle, on ne peut ni le mériter, ni l'acheter. Amen. Personne ne mérite rien. Mais il y a quelque chose dans cette histoire. Une femme qui a un cœur sincère et qui est complètement désintéressée. Elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Mais elle voit Élisée. Elle reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Amen.
Amen.
Élisée était le serviteur de Dieu de cette époque. Il était prophète en Israël, puisque c'est le temps des prophètes. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait trois ministères. Le sacrificateur, le prophète, et le roi. Et là on voit donc cette femme, elle reconnaît, elle reconnaît le ministère d'Élisée, elle connaît, elle sait tout ce qui s'est passé depuis le moment où Élie a été enlevé au ciel. Elle connaît les miracles qui se sont produits, comment l'eau du Jourdain a été fendue, Élisée est passée au travers. Il connaît aussi le cœur d'Élisée. Il connaît son dévouement. Parce qu'à cette époque, il y avait ce que l'on appelle l'école des prophètes, avec d'autres personnes qui étaient encadrées par Élisée. Élisée, c'était un homme qui aimait Dieu, qui donnait la parole de Dieu, qui servait le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces. Un homme qui servait Dieu avec ses qualités et aussi avec ses défauts. Même si, comme je vous le disais précédemment à d'autres occasions, la Bible ne nous montre pas que Élisée ait commis d'erreurs. Il n'a pas péché. Mais ça n'empêche pas une chose. C'est que c'était un homme comme les autres.
Amen.
C'était un homme comme les autres. Mais un homme qui servait Dieu. Un homme qui était engagé vis-à-vis de Dieu. Un homme qui était loin du Saint-Esprit. Et cette femme va reconnaître cette onction.
Et
vous savez, c'est une femme intelligente. Parce qu'elle se dit, quand cet homme, quand ce prophète vient, il doit venir chez moi. Il doit venir dans ma maison. Vous savez, quand on est en contact avec des gens qui sont loin, tu restes proche de cette personne. Tu bénéficies de cette onction. Alléluia. Donc cette femme était intelligente. Elle savait que quand Élie passait en ville, il doit venir chez moi. Vous savez, quand quelqu'un est loin, et il y a différents niveaux d'onction, que tu es proche de cette personne, tu captes ce que Dieu a mis sur cette personne. Tu le captes. Je me rappelle quand nous sommes allés à Réma pendant deux ans, puis une autre année, moi j'ai fait une autre année dans une autre école biblique, et ça nous était enseigné continuellement. vous êtes au bénéfice de l'onction qui est sur Kenneth Hagin. Et quand vous partirez d'ici, il y a quelque chose qui va rester sur votre vie. Et ça, je n'arrivais pas vraiment bien à le comprendre. Mais je sais que c'est vrai. Parce que je l'ai vu dans ma vie. À chaque fois que j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose de spécial sur quelqu'un, moi je m'assois au premier rang. Et si je peux toucher le bord du tapis, je le fais. Et si les gens me disent tu exagères, je dis t'occupe. Je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Vous savez, une fois, il y avait un prédicateur. Je regardais sur TBN. Je suis en train de vous dire quelque chose de vrai. Alors, vous savez, des fois, on a vu des vidéos, tout le monde en a vu. Des gens qui sont guéris. Et tu regardes. Et tu te dis. Mais alors, s'il est guéri, il devait vraiment être mort avant de venir pour qu'on prie pour lui.
Parce que,
tu vois, je suis guéri. Et moi, au fond de mon cœur, ça crie non. Je n'accepte pas ça. Pour moi, quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui se lève, qui marche, qui saute et qui court. Là, je suis d'accord. Mais je suis guéri. Arrête ça. Non. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ou alors, c'est un processus de guérison. Tu témoignes quand tu es complètement guéri. Alors, il y avait comme ça une femme qui était complètement paralysée. Et c'était vraiment dramatique. Alors moi je vois le serviteur de Dieu. Franchement, des fois c'est un peu impressionnant. Et ça doit être le petit frère de Smith Wigglesworth apparemment. Il se précipite et il impose les mains. Fort. Et après il attrape la femme par la main. Puis elle était vraiment grosse en plus. Dans un fauteuil. C'est normal quand on marche pas, alors on grossit, hein. Ne marche pas trop toi, hein. Ça va peut-être grossir un peu. Il la tire comme ça. Et la femme, elle tombe par terre. Elle se met à trembler de partout. Il y a quelque chose qui se passe là. Et tout à coup, elle se relève. Une femme qui faisait au moins 150 kilos, 160, au moins.
Vous
savez, dans certains pays, c'était en Afrique du Sud, des fois, les gens ils mangent beaucoup, ils sont très gros. Et elle se met à sauter, à courir, à danser. Ah, j'ai dit, là je suis d'accord. Je me rappelle, j'étais toute seule devant ma télévision. Et je parle toute seule. Là je suis d'accord. Ça c'est ce que je veux. Alors je regarde. Je touche la tête. Ça c'est ce que je veux. Je veux voir ça. Je crois aussi. C'est pas seulement cet homme parce qu'il pourra pas venir ici. Demain. Je veux. Seigneur, je crois. Le lendemain, on part à la prison. Et c'est là où j'ai vu la seule fois où il y avait quelqu'un dans un fauteuil roulant. Sauter. Courir. Danser. J'ai capté quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de capter encore. Je veux encore capter ça. Je veux, parce que je crois que tu es un Dieu de miracles et de prodiges. Amen. Voyez que cette femme était intelligente. Elle savait qu'il y avait une onction. Mais elle n'avait pas d'arrière-pensée. Vous savez, avoir des arrière-pensées, c'est très mauvais. Calculer. Je vais inviter telle personne chez moi parce que je vais lui demander ça, ou je vais profiter là, ou je vais lui soutirer ça. Ça, c'est des mauvais calculs. Ce sont des mauvais calculs. Ce sont des calculs d'un mauvais cœur. Mais cette femme, elle avait un bon cœur. Amen. Elle avait un bon cœur. Elle voyait l'homme de Dieu. Elle voyait l'onction qui était sur l'homme de Dieu. Elle disait, Seigneur, je dois inviter cet homme. Et puis c'est aussi un homme, des fois il a faim, ou peut-être qu'on lui donne à manger des trucs qui ne sont pas bons. Au moins s'il vient chez moi, il va bien manger. Je sais qu'il te sert beaucoup, Seigneur. Alors il faut qu'on lui donne un endroit où il va être tranquille, où il va pouvoir prier, où il va pouvoir se reposer. Et elle a dit à son mari, vous savez, souvent les femmes elles ont des initiatives quand même, des bonnes. Ah, les femmes! Il
n'y
a pas de femmes ici?
Amen. Amen!
Et vous, les maris, quand vos femmes ont de bonnes initiatives,
dites,
je suis fière de toi, je sais, au moins tu as pensé à quelque chose.
Amen!
Amen!
Amen.
Les maris, non? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous sommes ensemble, hein, n'est-ce pas? Turikumwe. Amen.
Amen.
Elle l'a fait avec un bon cœur. Elle ne cherchait rien. Elle avait juste remarqué. Il y a quelque chose. Et je veux le bénir. Et je veux l'aider. Et je veux le soulager. Et je veux l'encourager. Je veux lui montrer qu'il est vraiment important. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, au moins je le fais, je le donne. Vous savez, on ne peut pas faire ça sans qu'il ne se passe rien à côté, sans qu'il ne se passe rien après. On va lire ensemble ce que Jésus a dit. Parce que ça, c'est un principe. C'est vrai, c'est une histoire de l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est une histoire isolée. Mais c'est une histoire vraie. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 10, verset 41 et verset 42. Matthieu, chapitre 10, versets 41 et 42. Jésus dit, on va commencer un peu avant, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Il y a un principe dans cette parole. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, parce qu'il est serviteur de Dieu, parce qu'il reconnaît l'onction qui est sur sa vie, à chaque fois que tu fais quelque chose, pas par calcul, pas par intérêt, mais parce que ton cœur est dedans, tu recevras une récompense. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Mais malheureusement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire. On voit des serviteurs de Dieu, des gens qui sont loin, et tout autour, on voit quoi? Des mauvaises attitudes, des mauvaises paroles, des critiques. Vous savez, récemment, Benin est venu en France. Et c'est un homme qui a une onction extraordinaire. Et il a été accueilli bien par les gens qui l'ont accueilli, mais il faut savoir qu'il y a même eu un site internet qui a été écrit, qui a été créé pour le critiquer. Ne regardez jamais à l'homme. Les hommes sont des hommes. Nous sommes tous les mêmes. Amen.
Amen.
Nous sommes tous les mêmes. Nous tous. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun a ses points forts, ses points faibles. Les hommes sont les hommes. Mais sois quelqu'un qui sache regarder un petit peu plus loin que l'homme.
Amen.
Amen. Et si je vous dis ça, ce n'est pas par rapport à moi. Parce que moi personnellement, ce n'est pas, je ne recherche rien. Et d'ailleurs, quand le Seigneur m'a donné ce message, franchement, vous savez, le Seigneur sait y faire. Hein. J'étais à la maison en train de prier. Seigneur, donne-moi ta parole. Je dirai ce que tu me diras de dire. Je ferai ce que tu me montreras de faire. Et je n'avais aucune idée de la suite. Et j'ai ce message qui vient. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas dire ça. Parce que moi, je n'attends rien. Je ne veux même pas qu'on me donne des choses. Je ne veux rien. Je n'attends rien. Je ne veux pas qu'on pense que je suis en train de rechercher quelque chose. Et je commençais à contester avec le Seigneur. Et le Seigneur me dit, mais tu viens de prier. Je dirai ce que tu me diras de dire. Bon, allons-y. Allons-y. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je n'attends rien, je ne cherche rien, je ne veux rien. Je veux juste vous expliquer un principe qui vous permettra d'avancer dans le domaine du surnaturel, dans le domaine du miraculeux. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cette femme a reçu une récompense. Amen. Cette femme a reçu une récompense. Parce qu'elle a reçu Élisée, serviteur de Dieu, loin de Dieu, un homme comme tous les hommes, mais elle a vu que Dieu l'utilisait. Et elle a reconnu cette onction. Et elle l'a reçue en tant que telle. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on voit autre chose. On voit des critiques. On voit même des mauvais sentiments, des mauvaises pensées envers les serviteurs de Dieu. Que ce soit ici, dans cette ville, que ce soit ailleurs, faites attention. Faites attention. Quand tu commences à mal penser d'un serviteur de Dieu, quand tu commences à le critiquer, ou quand tu commences carrément à lui nuire, quand tu fais ça, tu te nuis à toi-même. Tu te détruis toi-même. Parce que tu fais le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Tu mets les choses à l'envers. Et quand tu mets les choses à l'envers, ça coule sur ta vie. Vous savez, on peut verser de l'acide, de l'essence, de n'importe quoi. Si tu le verses sur toi, quand tu mets les principes de la parole de Dieu à l'envers, tu te brûles toi-même. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Si tu sais que tel est véritablement un serviteur de Dieu, ou qu'il a fait quelque chose, qu'on dit beaucoup de choses sur lui, sache d'abord que déjà la moitié de ce qu'on dit est faux. Déjà, c'est obligatoire. Et dans l'autre moitié, il y en a un quart. C'est obligatoirement exagéré et tordu. Il y en a un autre quart, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Je sais que on peut dire, oui, mais quand même. Hein. Pense à ta bénédiction. Pense à ta protection. Pense que tu es celui qui doit recevoir une récompense de prophète. Parce que tu en as besoin pour ta vie. Amen. Amen. Gardons nos bouches. Même moi, parfois, j'ai mal parlé de certaines personnes et je dis, oh pardon, je n'aurais pas dû. Je ne le ferai plus jamais. Et des fois, je le refais un peu et je dis, oh pardon. Amen. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. Faisons vraiment attention de toujours nous mettre en position où nous allons attirer le meilleur, le surnaturel de Dieu. Reconnaissez l'onction quand elle est là. Respectez cette onction et honorez ceux qui portent cette onction. Ça va ouvrir des portes. ça va ouvrir des portes si tu fais ça avec ton cœur. Élisée ne savait même rien du tout de cette femme.
Et bon,
comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu est un donneur. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu si je te donne ça. Lui, il va te donner ça. Bien plus grand. Une petite chambre de rien du tout. Vous savez, construire pour cette femme, c'était une femme riche, construire cette chambre, c'était rien. Que ce soit à cette époque, que ce soit aujourd'hui, il y a des gens, ils donneraient toute leur fortune, tout ce qu'ils ont, pour avoir un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Parfois, c'est vrai, on a recours aux médecins, etc. Et ça peut donner un résultat. Mais pour cette femme, elle n'avait aucun espoir. Et il n'y a rien de plus terrible pour un couple de voir les années passer. La première année, c'est pas grave. La cinquième année, ça devient un peu gênant. 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage et pas d'enfant. Dieu savait ce dont cette femme avait besoin. Elle avait besoin d'un enfant. Et pour une femme stérile, c'était une récompense de prophète. Amen. Et ce qui a été annoncé, c'est ce qui s'est produit. Exactement comme cela s'est produit. Comme cela est annoncé, exactement ce que Élisée a dit de la part du Seigneur, c'est ce qui est arrivé. Parce que cette femme avait un amour et une reconnaissance complètement désintéressée. Elle voulait honorer Dieu. Elle voulait honorer le serviteur de Dieu. Avec ce qu'elle pouvait faire, son meilleur. Et en retour, un miracle inattendu. Inespéré. Complètement inespéré, inattendu. Et ça n'a pas traîné pendant 10 ans. Dans l'année même, elle a eu ce résultat. Maintenant, je voudrais qu'on continue cette étude. Parce qu'il y a vraiment des choses importantes. Verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. » Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Guérazi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Guérazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laissez-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Guéhazi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Guéhazi les ayant devancés et ayant mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi, dit « Appelle cette tsunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et il dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. C'est pas la peine de lire ça en Kirundi. Donc voyez, une grande bénédiction. Un grand miracle, une chose inattendue, cet enfant qui naît dans cette famille, une récompense de prophète qui est accordée à cette femme. Et pourtant, quelque temps après, donc l'enfant grandit et l'enfant va mourir. Mais moi, j'aimerais vous montrer le cœur de cette femme. Le cœur de cette femme qui n'était pas prête du tout à se laisser voler par le diable son fils, pas du tout prête à cela. Dieu m'a donné, et ce que Dieu m'a donné, c'est à moi et personne ne le prend. Amen. Amen. C'est vrai que dans le livre de Job, il est écrit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Et je dois dire que cette déclaration a été faite par un homme qui ne connaissait pas Dieu, pas bien, parce qu'à la fin de l'histoire, il dit « Seigneur, je te demande pardon, j'ai dit trop de choses, j'ai dit n'importe quoi, je ne te connaissais pas, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me repens et je te demande pardon pour toutes les choses folles que j'ai pu dire. Amen.
Amen.
Donc il faut bien comprendre le contexte de chaque livre de la Bible, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont pensé à cela. Donc qu'est-ce que l'on voit? Cette femme qui a son enfant qui grandit et brusquement l'enfant meurt. Amen. L'enfant meurt, sachez-le. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des attaques, mais quoi que Dieu t'ait donné, accroche-toi à ce qu'il t'a donné. Dieu me l'a donné, personne n'a le droit d'y toucher, personne n'a le droit de le reprendre. Et ça, c'est encore un autre trait de caractère de cette femme qui a permis le miracle. Vraiment, cette femme, elle avait un cœur extraordinaire. Premier miracle, la naissance de son fils. Deuxième miracle, la résurrection de son fils. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'elle avait un cœur honnête, sincère. Elle n'a rien mérité, mais elle connaissait Dieu. Bien sûr, jusqu'à un certain point, mais elle a été jusqu'au bout. C'est impossible, si Dieu m'a donné ça, que qui que ce soit puisse me le reprendre.
Amen.
Et ce que l'on voit, c'est que bien souvent, les gens baissent les bras. Bon, bah c'est fini. C'est foutu. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ceci. C'est la vie. C'est comme ça. On se résigne. Ne te résigne jamais devant le diable.
Amen.
Des fois, on ne sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, dans cette histoire, c'est écrit, Élisée envoie son serviteur avec son bâton, il lui dit « Mets ton bâton sur l'enfant !» Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Oh. Il se passe rien. Il met son bâton sur le visage de l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. C'est ce qu'il va dire, son serviteur. Il ne se passe rien. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Parfois, on ne sait pas comment faire. On essaie une chose, ça ne marche pas. N'essaye pas 50 choses. Demande seulement à Dieu ce qu'il faut faire. Je veux en revenir un peu sur la femme. Donc, son enfant meurt. Et là encore, regardez un petit peu son attitude. Parce que ça va vous aider. Moi, ça m'a aidé quand j'ai lu cette histoire. Quand j'ai étudié cette histoire. Elle va voir son mari. Elle lui dit, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Et le mari ne comprend pas. Tiens, pourquoi tu veux aller le voir? Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de fête spéciale. Elle va lui dire, tout va bien.
Tout.
Est-ce que tout allait bien?
Non.
Est-ce qu'elle a menti?
Non.
Non. Elle n'a pas menti. Parce que elle voyait au-delà de l'événement qui venait de se produire. Dieu m'a promis un enfant.
Il
ne me trompe pas. Il ne peut pas me tromper. Donc là, il y a ce problème-là. Mais tout va bien. Pourquoi est-ce que le mari lui pose cette question? C'est tout simplement parce que Élisée, il se trouvait au Mont Carmel. Et entre Sunem et le Mont Carmel, il y a 27 kilomètres. Environ 27 kilomètres. Vous savez, cette femme, elle était vraiment déterminée. Aujourd'hui, faire 27 km, c'est rien. Tu montes dans la voiture, tu pars. Mais à l'époque, c'était une expédition. Et elle y va. Amen. J'aimerais qu'on voie un peu aussi autre chose. Donc, elle arrive. Bien sûr, elle est bouleversée. Elle se jette aux pieds d'Élisée. Et son serviteur, il ne comprend pas. Il veut la repousser. Il y a une chose encore que j'aimerais qu'on regarde. C'est à la fin du verset 27 qui dit, laisse-la. Élisée dit à son serviteur, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Élisée ne savait pas. Il ne savait pas ce qui se passait avec cette femme. Et pourtant, Élisée était prophète. Amen. Celui qui sait tout, celui qui a réponse à tout, c'est le Seigneur. Amen. 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 Parce que moi, je veux quand même soulever cette chose parce que c'est écrit là et je sais que c'est nécessaire d'en parler. Il y a des personnes qui se trompent dans le sens où ils font des erreurs. Ils se trompent quand ils ont un problème. Ils ont besoin de recevoir une parole d'un serviteur de Dieu. Et il y a certaines personnes qui se disent prophètes. Et en fait, ils sont comme des distributeurs automatiques de prophéties. À chaque problème, à chaque situation, ils doivent avoir une parole de Dieu pour la personne. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, un certain serviteur de Dieu qui se disait prophète. Alors, il était venu en ville et il avait son petit magnétophone comme ça. Et il avait un protocoleur qu'il suivait avec une boîte de cassettes vierge. À chaque personne, parce que, alors évidemment, c'est comme c'est spectaculaire, tout le monde vient. Mais il faut savoir une chose, que tout ce qui est spectaculaire n'est pas forcément divin. Alors tout le monde vient, et à chaque personne, il va prier pour telle, il met une cassette dans la machine, il commence, cherche l'inspiration. Seigneur te dit que tu te marieras l'année prochaine, parce qu'il n'a pas vu d'alliance. Bien sûr, j'exagère un peu. Ou des fois, on cherche l'inspiration, on cherche quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et quand il n'y a rien, bah dis rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de spécial. Et chaque personne qui était là dans la file, ils recevaient tous leurs cassettes. Moi, quand je me rappelle, j'étais en France. C'était vraiment même avant qu'on fasse l'école biblique. On était très jeunes dans le Seigneur. Alors il y avait des gens spectaculaires qui venaient comme ça. Alors il y avait des, on était dans une petite église d'une centaine de personnes. Alors il y avait un frère. Il était un peu maigre, assez grand. Il avait beaucoup de cheveux et les cheveux frisés comme ça. Je ne sais pas pourquoi il attirait l'attention des faux prophètes comme ça. À chaque fois on lui disait, lève-toi, il y a une parole pour toi. Et on commençait à lui dire beaucoup, vraiment des choses extraordinaires. Et une autre sœur qui s'asseyait toujours devant. Et toi, debout. Toi, vraiment, le Seigneur va t'utiliser. Et nous, on était assis au fond. Avec Olivier. J'ai dit, mais pourquoi nous, on n'a pas de parole? Moi aussi, j'aime le Seigneur. Je veux le servir. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Oh Seigneur, je veux une parole. Et j'en ai jamais eu. Mais tous les autres qui ont eu des paroles, quand je regarde bien, tout ce qu'on leur a dit, ils l'ont jamais fait. Et c'est moi qui le fais. Alors que moi, on m'a jamais rien dit. Amen. Confiez-vous dans le Seigneur, non pas dans les hommes. Même les plus grands serviteurs de Dieu, même les plus loin, comme Élisée. Élisée était un homme loin, c'était indiscutable. Amen. Il était loin, mais dans cette situation, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est là. Le Seigneur ne m'a rien dit. Le Seigneur ne m'a pas montré. Mais apparemment, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je ne sais pas quel est son problème. Amen. Amen. Et quand Élisée apprend la nouvelle, il va envoyer son serviteur avec le bâton. Il
n'y
a rien qui se passe. Rien. Rien. Amen. Il n'y a rien. Mais Élisée, moi j'aime Élisée. Ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Il aurait pu dire, bah, ça n'a pas marché. Hein. Maman, désolée, ma pauvre. Peut-être, je réfléchis. Ah ouais, voilà, je sais ce qu'il faut faire. Cette parole que tu allais avoir un fils, elle a bien marché, celle-là. Je vais la redonner, après tout, ça peut marcher encore une deuxième fois. Allez, c'est pas grave, enterre ton fils l'année prochaine à la même époque. Ça, c'est la parole qui marche avec moi. Tu en auras un autre. Vous savez, je fais ça en blaguant. Mais c'est malheureux, mais il y a des gens qui le font sérieusement.
Amen.
Élisée, il voit cet échec, mais il ne laisse pas tomber. Amen. Je vais y aller moi-même en personne. Et il monte dans cette chambre jusqu'à ce qu'il voit le résultat. Je ne sais pas combien de minutes ou combien d'heures il a passé avec cet enfant dans cette chambre, mais une chose est sûre, c'est quand il est sorti de la chambre, l'enfant était vivant. Moi, ce que je veux vous dire, et ça c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur, Dieu, ce Dieu-là, c'est ton Dieu, c'est le mien, c'est le même Dieu, celui qui n'a jamais changé, celui qui veut, qui peut, il peut, et il veut même bien plus que toi tu ne le veux, faire encore des choses simples. Il veut et il peut faire ces choses-là. Mais est-ce que tu as le cœur de cette femme? Est-ce que tu as le cœur d'Élisée? Vous savez, le cœur dans le cœur, dans le comportement, dans l'attitude de cœur, dans les pensées du cœur, il y a bien plus que ce qu'on pense. Chantez, il va faire encore.
Enseigne-moi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.